C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Mercredi 23 septembre, le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, était en visite sur le territoire de la communauté de communes aux artistes Marquion. Il a entre autres visité des équipements, fait le point sur le développement de la fibre sur ce territoire et a également rencontré des responsables d'entreprises ayant bénéficié de l'arrivée du très haut débit dans leur activité. Retour sur cette visite du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, que l'on écoute de suite.
Ouais, on sait à quel point c'est important pour le gouvernement de déployer ces réseaux de communication, la fibre notamment, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au numérique. On sait à quel point ça a été difficile pendant le confinement pour tous ceux qui n'avaient pas accès à la fibre. On prend des décisions à Paris, on finance, mais c'est extrêmement important de venir, y compris en dehors des villes, ou en tout cas en dehors des grandes villes, sur le terrain, constater ce qui se passe. Et on a ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, un syndicat mixte qui, en collaboration avec l'État, les autres collectivités territoriales, déploie extrêmement rapidement la fibre, notamment dans la zone d'initiative publique. Et donc, voilà, on vient constater que les choses se déploient, que même si les gens sont toujours impatients, hein, c'est sûr, monsieur le maire, qu'elle n'arrive jamais à cibler de la fibre. Voilà, la France est aujourd'hui la championne d'Europe, voire la championne du monde de déploiement de la fibre. On sait à quel point c'est important pour les gens, pour les entreprises et pour les territoires. Ça permet de garder des entreprises, ça permet d'éviter l'exode, ça permet de revitaliser des territoires. On sait particulièrement dans ce département à quel point l'industrie c'est important. Et donc voilà, c'est venir incarner cette volonté, je pense, de l'ensemble des collectivités. Ce que le gouvernement a annoncé également quelques jours plutôt, sur cette volonté de fibrer l'ensemble de la France d'ici 2025. Ici, on ne va pas attendre 2025, je crois que d'ici fin 2021, notamment dans la zone d'initiative publique, tout le monde aura la fibre. Et ça change la vie.
Y a-t-il moyen encore d'accélérer les choses, notamment avec le plan de relance ?
Alors avec le plan de relance, on veut faire deux efforts particuliers. D'abord, il y a certains départements, ce n'est pas le cas ici, mais certaines régions qui ont eu des conditions de financement moins intéressantes et qui ne peuvent pas financer jusqu'à 100%. Donc nous, on veut aller jusqu'à 100%. Et on veut faire un effort particulier sur les raccordements longs. On sait que c'est une des difficultés, c'est sur certains raccordements très longs, des gens qui sont un peu éloignés des cœurs de village ou des cœurs de ville, qu'il faut faire un petit effort de financement. Donc on veut faire en sorte qu'on finance ce déploiement. Vraiment, l'objectif, c'est 100% de la France fibrée d'ici 2025. Et puis, il y a une volonté d'accélérer sur un certain nombre de simplifications ou de modifications administratives. On voit ici quelques organisations qui fonctionnent plus ou moins bien entre les différents prestataires. Ce qui d'ailleurs, je veux tout de même en profiter pour saluer le travail de tous ceux qui ont continué à tirer la fibre pendant le confinement, de tous les salariés, de tous les employés, parce qu'eux, ils ont continué à travailler, qu'il pleuve, qu'il vente, et même pendant le confinement. Mais voilà, il y a probablement des sujets administratifs dans la capacité à tirer les câbles plus vite dans les copros, à simplifier les démarches administratives pour faire en sorte que non seulement le câble se déploie, mais qu'on puisse commercialiser au plus vite les prises.
Aujourd'hui, un territoire entièrement fibré pourrait nous dispenser de plus de mobilité. Voilà, le grand débat qui anime aujourd'hui, c'est la 5G. Je peux vous poser la question là-dessus. Voilà, ça va être complémentaire ou alors est-ce qu'on pourrait se contenter d'un territoire entièrement fibré ?
Non, on ne peut pas se contenter d'un territoire entièrement fibré parce que la 5G apporte autre chose. La 5G, en quelque sorte, c'est la fibre en mobilité. Et donc, pour un certain nombre d'usages dans l'agriculture, dans la télémédecine, dans l'industrie, on a besoin de la 5G. Et je veux le dire très formellement, dans un territoire qui sait ce que c'est que l'industrie, il n'y aura pas d'industrie à l'avenir, il n'y aura pas de réindustrialisation s'il n'y a pas la 5G. Donc on a besoin de la fibre, c'est indispensable, mais on a aussi besoin de la 5G en ce qu'elle permet de nouveaux usages, notamment dans l'industrie, notamment dans l'agriculture, notamment dans la télémédecine, notamment pour la voiture de demain. Et donc c'est extrêmement important d'avoir les deux, parce que vous n'allez pas connecter la voiture à la fibre, vous n'allez pas connecter votre tracteur à la fibre, vous n'allez pas connecter une cabine de télémédecine qui se déplace à la fibre. Et donc on a besoin de la 5G. Ça ne veut pas dire que c'est la 5G ou la 4G ou la fibre. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un pays qui déploie plus vite la fibre ou les pylônes que la France. Et donc on va continuer à accélérer sur les pylônes en 4G. on va déployer la 5G parce qu'on en a besoin sur notre île. D'ailleurs, on va déployer la 5G sur les pylônes de la 4G. Mais on a besoin de toutes ces technologies parce que monsieur le maire disait tout à l'heure, si on veut faire en sorte de revitaliser les territoires, si on veut faire en sorte de créer de l'emploi, on a besoin de ces technologies en répondant aux inquiétudes, bien sûr, qui peuvent se poser. Mais c'est indispensable à l'heure où il y a 100 millions de Chinois qui sont connectés à la 5G, à l'heure où tous les pays européens quasiment ont déployé la 5G, où il y a plus de 1000 antennes aux Pays-Bas. Voilà, si on veut que l'industrie de demain vienne s'installer et continue d'être ici, en France, on a besoin de la 5G.
La fracture numérique, c'est également parfois dû à une question de tarification, tarification sociale. Ça, c'est expérimenté, ça doit se mettre en œuvre, ça doit être généralisé.
Alors, il y a des choses qui sont expérimentées. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la tarification de la fibre, ou en tout cas de la connexion. Il y a les équipements et il y a les usages. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les usages, c'était ce matin à EFIT2P pour parler de cette question de l'inclusion numérique, ça précède tout, en fait. Il y a beaucoup de départements qui ont essayé de fournir des ordinateurs, de fournir la connexion. En fait, on se rend compte que si on accompagne mal l'usage, on doit accompagner l'usage. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de faire un effort particulier sur les usages. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va déployer des milliers de formateurs au numérique partout en France. Et par ailleurs, on a des discussions, notamment dans le cadre du fibrage total de la France, pour déployer un service universel. Et faire en sorte que tout le monde puisse être accordé, même si vous êtes un peu loin et même si vous n'êtes pas dans des conditions extrêmement favorables. Je pense que on doit concevoir aujourd'hui la question de la connexion, l'action de la fibre comme l'eau et l'électricité, et c'est ce qu'on veut transformer dans le quotidien des Français.
Cédric O, le mercredi 23 septembre, à l'occasion de son déplacement en Hauts-de-France et notamment sur le territoire aux artistes Marquion, pour parler du déploiement du très haut débit via la fibre. Il était entre autres accompagné par Pierre Georget, le président de la communauté de communes aux artistes Marquion, et par Bénédicte Messiane-Grobelny, vice-présidente de Nord-Pas-de-Calais Numérique, conseillère départementale. Bénédicte Messiane-Grobelny.
Alors le sens de cette journée, c'était déjà de lui faire découvrir le territoire, en premier lieu les usages du numérique avec une rencontre à l'AFP2I d'Arras et les assembleurs, qui est un programme national repris avec un travail avec la région. Et pour discuter justement de lieux dédiés à la formation, aux usages du numérique, et aussi de travailleurs sociaux formés et équipés pour être sur le terrain au plus proche des habitants qui auront besoin effectivement d'être formés sur les usages du numérique.
Alors quelques mots pour rappeler le travail du syndicat mixte Fibre 5962.
Alors le syndicat mixte La Fibre Numérique 5962 a travaillé a élaboré avec les deux départements, le Pas-de-Calais, le Nord et la région, une délégation de services publics qui a permis de fibrer à ce jour une grande partie de la population. Alors programme qui a commencé en 2017 avec 40 000 prises, et cette année, rien que pour un petit exemple, il y aura 150 000 prises, c'est-à-dire un déploiement assez important pour que fin 2021, l'ancienne région, le Nord et le Pas-de-Calais, soient fibrés.
Voilà, parce que pour les grandes villes, ça posait pas trop de soucis, parce que là, il y avait des opérateurs prêts à y aller. Là où il y a moins de clients, où c'est un peu plus compliqué, ça se bouscule pas au portillon.
Oui, pour vous dire vraiment, ça continue. C'est-à-dire que parfois, des communes sont parties avec des opérateurs privés, mais jusqu'alors, elles ne seront pas fibrées en 2021. En tout cas, nous, le secteur dit zone publique, c'est-à-dire, on va dire, les centres-bourgs et la... Et les communes, elles seront fibrées bien avant, en tout cas, à la fin 2021, sûr et certain.
C'était vraiment important. On sent que ça accompagne les populations et le secteur économique, entre autres.
Bien sûr, c'était déjà très important, surtout pour le secteur économique. Après, la différence était pour ceux qui n'avaient rien du tout, c'est-à-dire pas du tout d'ADSL, où d'ailleurs nous avons priorisé ces communes. Et ensuite, après, nous avons vu avec le Covid, là, un déclenchement plus qu'essentiel de cette fibre qui permettait aux habitants de pouvoir communiquer, d'avoir un regard sur l'extérieur, de travailler aussi, et à nos élèves et étudiants, collégiens aussi, de pouvoir continuer les cours.
Territoire aux artistes Marquion, en avance, en retard ? dans le timing?
Alors en fait, le territoire aux artistes Marquion est tout à fait dans les temps, même un peu plus avancé. Mais il faut savoir que la priorité, en tout cas de cette DSP et de tous les élus présents au syndicat mixte, c'était vraiment d'aller au plus près de ceux qui n'avaient rien. Donc ça nous a permis d'être égalitaires sur les territoires et équitables surtout.
Aujourd'hui, il faudra sensibiliser de temps en temps quand même à la déconnexion, parce que à force d'être hyper connecté, on oublie parfois le sens des réalités. On en a besoin, mais il ne faut pas vivre rien qu'autour de ça.
Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, le monde va vite et on peut laisser personne sur le bord du chemin. Après, encore une fois, faire à la place d'eux, ça n'a jamais été ma façon de faire. Accompagner les gens, je pense que c'est essentiel, et c'est à eux aussi à déterminer le temps où il faut rester connecté et le temps où il faut rester déconnecté.
Les prochains gros enjeux technologiques, selon vous, sur le territoire?
On est en train d'installer, enfin on avance en tout cas dans le Pas-de-Calais sur la 4G pour après pouvoir très vite embrayer sur la 5G qui va être en fait un internet mobile, si je puis dire, donc qui va permettre un développement différent pour les intercommunalités et même pour les départements, la région, encore une fois espérons qu'il y ait la même intelligence collective que pour le déploiement de la fibre.
Bénédicte Messiaen-Grobelny, vice-présidente de Nord-Pas-de-Calais Numérique, conseillère départementale qui se félicite également de l'insertion réalisée dans le cadre du déploiement de la fibre sur le territoire des Hauts-de-France. On revient dans un instant dans la puce à l'oreille, cette fois-ci avec le témoignage d'entrepreneurs du territoire aux artistes Marquion qui ont bénéficié de l'arrivée du très haut débit. Restez avec nous.
Radio
Scarpe Sensé.
Radio Scarpe Sensé.
La puce à l'oreille.
Oh, Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Et aujourd'hui, on parle de la fibre et du déploiement de la fibre sur le territoire aux artistes Marquion. On revient sur cette visite du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O. C'était le mercredi 23 septembre, le secrétaire d'État qui a pu rencontrer quelques entrepreneurs du territoire qui ont bénéficié justement de l'arrivée de la fibre pour leur activité. C'est le cas pour la société Stratélogique qui était représentée par son fondateur Sylvain Dufournil.
Stratélogique est né il y a 20 ans exactement sur l'idée de concevoir des jeux pédagogiques, donc des jeux qui sont prévus pour former des professionnels à des problématiques de gestion, de stratégie, d'économie ou de travail en équipe.
Il y a 20 ans, ils ont quelle forme ces jeux ?
Alors au début, c'était des jeux qui étaient avec des fiches de décision qu'on intégrait sur Excel. Après, c'est devenu des produits qui étaient sur des logiciels dédiés. Après, on a eu le début du réseau avec le réseau filaire. Ensuite, c'était le réseau Wi-Fi. Et puis après, on a tout transposé sur Internet avec maintenant des usages qui sont à 100%. Tous nos produits sont en ligne.
Cette société, elle est basée où ?
À Quiéry-la-Motte.
Depuis toujours ?
Non, au début, on était à Douai, à l'école des mines de Douai, dans l'incubateur de l'école des mines de Douai. Ensuite, on est venu voir Pierre Georget à Vitry-en-Artois. Il y avait un centre d'affaires juste à côté des pompiers. Et puis après, on a divisé les activités. Et puis mon associé est parti sur Reims et moi, je suis resté à côté de Vitry-en-Artois, à Quiéry-la-Motte.
Et pourquoi Quiéry-la-Motte ?
C'est où j'habite.
Tout simplement. Donc c'est pour travailler à la maison ?
C'est pour avoir mon bureau à côté de chez moi même, un étage.
Voilà. Et puis là, ben, maintenant, vous pouvez véritablement travailler pleinement à la maison. C'est ce que vous avez expliqué aujourd'hui, parce que l'arrivée du haut débit et du très haut débit, ça a changé pas mal de choses.
Alors, ça a changé beaucoup de choses avant le confinement, et on s'est rendu compte au moment du confinement, c'était devenu indispensable. Parce que je suis aussi... Donc j'édite des solutions logicielles, donc une partie d'exploitation des serveurs, où qu'on soit présent ou pas, ça change pas grand-chose. Par contre, quand on fait de la formation à distance... Toutes les formations qui étaient sur site ont été mises en place en ligne. Et là, pour pouvoir faire fonctionner de la vidéo, avoir des conférences à plus de 100 personnes, par exemple, si on n'a pas un débit suffisant, c'est pas imaginable. Donc ça a permis de maintenir une activité et de maintenir un chiffre d'affaires normal, quoi.
Donc vous n'avez pas tant souffert que ça, ou comme les autres, mais moins
Alors, moi qui suis aussi formateur, j'aime la relation humaine avec les gens. Donc évidemment, ça, on la perd quand même beaucoup en ligne. Parce qu'on se retrouve devant un panneau de carré noir, ce qui n'est pas forcément très sympathique. Par contre, en termes de chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de baisse d'activité, financière. Quoi.
Combien de collaborateurs aujourd'hui ?
Alors, on réussit à se mobiliser à 10 sur des grosses actions de formation. Sinon, de permanent, on est 2.
Et ces formations, encore une fois, elles s'adressent à qui alors ?
Alors, elles s'adressent à des salariés en entreprise, à des salariés en institution, sachant que ce n'est pas du tout le même public, et puis une grosse population d'étudiants en école de management, école d'ingénieur, université.
Pour apprendre quoi ?
Pour apprendre les rouages de la finance d'entreprise, et aussi la stratégie d'entreprise, l'économie, le contrôle de gestion, donc des thématiques de management.
Par rapport à un cursus plus universitaire, c'est quoi la différence ? C'est les mains dans le cambouis davantage ?
C'est de la formation par l'action. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on essaie de parler de la théorie après avoir essuyé les plâtres, parce qu'on pense que quand on suscite le besoin, on est beaucoup plus éveillé à l'apprentissage. Donc le jeu confronte les participants à des situations complexes, bien souvent qu'ils les dépassent. Et à la fin de la session, le but, c'est qu'ils aient réussi à remettre toutes les briques en place avec l'aide de l'enseignant, qui est plutôt un coach, un accompagnateur dans le cas, pour avoir compris les fondements théoriques, mais à la fin.
Vous avez été formé où, vous, initialement ?
Alors moi, je suis ingénieur de l'école des mines de Douai. Alors maintenant, c'est IMT Lille Douai.
IMT, qui a
voilà. Après, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle à l'université de Lille, il y a 4-5 ans. Voilà.
L'enseignement que vous avez reçu là-bas, en ce temps-là, et aujourd'hui, ce qu'on y apprend, sont des choses différentes ?
Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Hein. Déjà, la taille des promotions a évolué. Les admissions ont évolué, les attendus ont évolué. Alors après,
le monde du travail également a évolué.
Le monde du travail a évolué, puis je pense que les gens ont évolué beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup les jeunes aujourd'hui, ou même les moins jeunes, ont une capacité à travailler en réseau qui est beaucoup plus forte. Par contre, ils ont moins de capacité à produire seuls. Donc ils sont certainement capables de produire des choses extraordinaires ensemble, mais l'individu seul est moins capable de concevoir et de créer alors qu'ils sont très forts ensemble. Donc c'est d'où la nécessité de la connexion. Quoi.
Comment on fait de temps en temps quand même quand on travaille à domicile pour avoir une vraie vie, c'est-à-dire une vie de famille, une vie sociale et presque une vie déconnectée?
Alors on a notre femme et nos enfants qui nous rappellent à la raison régulièrement. Donc ça c'est. Et puis il faut avoir une pièce dédiée, sinon c'est pas jouable. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, le travail à la maison, en plus avec les téléphones portables, les ordinateurs, enfin, on est sollicité tout le temps.
Aujourd'hui, il faudra former justement les gens au télétravail, c'est un axe sur lequel vous comptez travailler?
Alors écoutez, moi je pense que les gens sont souvent motivés pour télétravailler, parce qu'il y a quand même une aisance, hein, il y a moins de temps de trajet, il y a moins de coûts, et je pense qu'ils se forment très vite quand ils ont un intérêt personnel, donc je ne suis pas convaincu qu'on soit obligé de les former. Par contre, on est obligé de structurer les entreprises pour qu'elles puissent autoriser les salariés à utiliser des outils pertinents pour fonctionner correctement.
Sylvain Dufournil, créateur de la société Stratégique, une société donc à Quiry-la-Motte qui aujourd'hui bénéficie de l'arrivée de la fibre, venu témoigner également de l'arrivée de la fibre, monsieur Marc Jakubiak. Il est ostéopathe et gérant de la structure pluridisciplinaire de santé d'Arles-en-Goël, une structure créée fin 2016 et qui elle aussi va bénéficier tout prochainement de la fibre.
La fibre va nous permettre de pouvoir peut-être recruter, enfin peut-être pas recruter, c'est pas le bon terme, mais de trouver un médecin ou un spécialiste qui serait intéressé de développer par exemple des téléconsultations, pouvoir utiliser le haut débit pour transmettre les données en direct et les gros volumes, les gros fichiers.
Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ça, l'installation d'un médecin, c'est terriblement compliqué parce qu'on lui demande de travailler, par exemple, avec les centres hospitaliers et autres et d'être très réactif.
Probablement, oui. Donc, je pense que ça peut rebuter certains médecins, certains spécialistes à venir s'installer en zone rurale. Oui.
Vous, ça a changé quelque chose ou pas du tout?
Aujourd'hui, tous les professionnels de santé, ça change parce qu'on a accès à l'information en direct, quelle que soit l'information. Ça peut être une pathologie, ça peut être, on peut tout de suite connaître les tenants, les aboutissants du problème, de ce que souffre le patient, et pouvoir aussi être en interaction avec les organismes les organismes comme la CPAM ou même les médecins, les spécialistes, pour avoir organisé des soins autour du patient, justement.
Vous êtes dans une discipline qui nécessite quand même une relation au corps,
tout à
vous.
Fait, oui.
Donc la télémédecine, ça vous concerne quand même, et entre autres, les téléconsultations. Comment vous regardez ça? Peut-être pas pour vous, pour d'autres, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Tout à fait, parce que bon nombre aujourd'hui de patients parfois consultent, je ne vais pas dire pour rien, mais n'ont peut-être pas forcément besoin de se déplacer, d'aller en salle d'attente, d'occuper une place dans le cabinet du médecin. Ça peut être parfois des consultations qui peuvent se faire à distance, quand c'est un renouvellement d'ordonnance, quand c'est que le patient il connaît bien son médecin et que la maladie est connue. C'est pas la peine comme ça de le faire se déplacer à chaque fois. Oui.
Vous l'espérez quand? Le médecin supplémentaire, le spécialiste ou le médecin généraliste?
Hier.
L'attente est là, il y a le besoin sur ce territoire?
Oui, parce qu'il y a énormément de médecins aux alentours qui prennent leur retraite l'un après l'autre. Et maintenant, j'ai des patients qui me disent « mais où je vais où ?» Et donc, comme la plupart des patients savent que on est sur un projet d'extension, ils me disent « dès que vous avez un médecin, vous me le dites ».
Marc Jakubiak, ostéopathe et gérant de la structure pluridisciplinaire de santé d'Arles-en-Goël. On continue de parler de l'arrivée de la fibre et du bénéfice pour les entrepreneurs du territoire aux artistes Marquion. Dans un instant, restez avec nous serons avec la société Kanga à Villers-lès-Canicourt.
Radio.
Scarpe Sensé.
Radio Scarpe Sensé.
D'abord il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez,
lui qui sait plus son homme, c'est tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église, qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui dévale. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui perd ses petites affaires avec son petit chapeau et son petit manteau et son petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, n'importe quoi, et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade, qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide et ça fait des grands. Oui, elle a toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a. On n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. On compte.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Et aujourd'hui, émission consacrée à l'arrivée de la fibre sur le territoire aux artistes Marquion. Dernier témoignage, Jean-Sébastien Gallo, créateur de la société Kangam à Villers-les-Canicours.
Je développe des logiciels sur mesure depuis 2007.
Ça veut dire quoi ça ?
Alors c'est des sites internet à la base, des applications mobiles, ça vous connaissez un peu plus, et des logiciels sur mesure, ça peut être des logiciels de gestion d'une entreprise, ça peut être par exemple en chauffage industriel, des jeux de chasse au trésor pour le tourisme et la culture récemment au Labo à Cambrai par exemple, une borne tactile sur l'aire d'Aizvilliers pour la Haute-Somme. Et en logiciel, s'il y a un aspect plus gestion, par exemple des relevés de température dans des bâtiments, les données sont transmises, on en fait quelque chose pour des alertes par exemple. C'est vraiment au cas par cas, pointage des heures, voilà, c'est à chaque projet différent.
Elle a quel âge cette société ?
J'ai créé en 2007, donc ça fait 13 ans. C'est une SRL, mais je travaille seul ou en réseau avec des compétences que j'ai pas. Soit du graphisme, vidéo ou autre. Et donc voilà. 13 ans.
Elle est installée à
Villers-les-Canicours.
Depuis toujours ?
Depuis 2011, parce que je travaille de chez moi à Villers. J'ai un bureau à Cambrai aussi, mais sinon c'était en 2007 à Tourcoing. Donc voilà.
Et aujourd'hui, ben, vous bénéficiez quand même de l'accès au très haut débit, ce que vous n'aviez pas pour un concepteur de site internet ou un développeur. Ouais, ça paraît totalement contradictoire que de travailler là-dessus sans avoir de connexion au bureau.
J'étais un peu optimiste quand on a emménagé là-bas. Bon, après j'ai découvert que c'était vraiment très bas débit, 0,7 mégas. Donc,
tu fais quoi avec ça ?
Alors, on prend son temps, il y a ça. Franchement, c'était mon optique à l'époque. Mais ça a permis aussi de tester des applications pour une entreprise de chauffage industriel en très bas débit. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites c'était un gestionnaire de bons de commande. Vous prenez en photo des bons de commande, c'est des pièces que vous allez acheter chez le fournisseur. Et le fait de ne pas avoir de débit, ça permet de se dire, là, il va falloir stocker la photo et les données avant de pouvoir les renvoyer quand on est dans une zone où il y a du débit. Et ça a permis vraiment bien de tester à l'époque et de se dire qu'on pense différemment le logiciel. Donc voilà, mais après, ça a un temps, parce qu'il y a un moment quand vous voulez voir des vidéos, télécharger, mettre à jour des ordinateurs à distance. Vous allez ailleurs, quoi.
D'où le fait d'avoir une antenne à Cambrai à l'époque.
C'est ça, ouais. Je travaillais à Cambrai parce que moi j'étais sûr d'avoir du haut débit, quoi. C'est sûr, c'est primordial. Vous pouvez pas aussi accueillir des employés ou un stagiaire avec 0,7 mégas sur du numérique.
Aujourd'hui, vous arrivez d'avoir des sociétés qui viennent vous voir en disant j'aurais besoin de ça comme solution, mais que justement le fait qu'elle n'ait pas suffisamment de débit, ça ne permet pas de répondre pleinement à leur attente.
Non, parce qu'on peut faire des logiciels qui fonctionnent sans réseau. Puis après, quand vous avez du réseau, vous renvoyez les données. Mais pour elles, si c'est leur lieu de travail, c'est embêtant. Ouais. Un exemple, c'est que j'interviens sur une boîte, une société de chauffage à Douai. Et ils sont une vingtaine sur place. Ils avaient du très bas débit. Ils sont passés par le satellite et maintenant la fibre. Bah, heureusement, parce qu'il y a un moment, travailler, faire des commandes de chauffage ou autre... En très bas débit, c'est pas économiquement, c'est pas viable. En fait. Donc, j'essaie toujours de trouver des solutions pour les clients. C'est pour ça que je fais du sur mesure.
Ce qui compte le plus, c'est quoi ? C'est le volume de données que l'on peut transférer en envoi ou en réception, ou c'est le temps que ça met à envoyer et à réceptionner ? C'est quoi ce qui compte ? C'est le volume ou le temps ?
Je dirais le temps quand même, parce que quand vous, ouais, c'était ça, c'est qu'en fait quand vous fonctionnez en très bas débit, par exemple, vous avez un risque de coupure, en fait. Et donc là, si vous coupez la connexion, soit vous avez pensé à la sauvegarder, soit vous devez recommencer, et c'est quand même assez irritant, en fait. C'est plus ça, le volume, c'est plus pour si vous avez vraiment des gros transferts, ou voir de la vidéo, par exemple. Donc si vous vous formez en ligne et que vous devez consulter des vidéos, bah, c'est impossible sans haut débit, quoi.
Aujourd'hui, vous travaillez davantage à la maison plutôt qu'à Cambrai ?
Ouais, c'est sûr. Enfin, je fais une journée à Cambrai pour certaines autres raisons, mais c'est sûr que c'est plus à la maison. Il y a un truc tout bête, c'est le trajet. Vous n'avez pas une demi-heure de route le matin, une demi-heure de route le soir à faire, même si c'est pas non plus un critère. Faut pas courir tout le temps, quoi. Mais c'est sûr que c'est 3 jours sur place, voire 4, et une journée à Cambrai. Même s'il n'y a que le confinement, il y a eu des changements avec les enfants. Mais voilà.
C'est un secteur concurrentiel.
Il y a. Il y a beaucoup d'agences web, de développement de logiciels, mais il y en a aussi beaucoup qui sont dans des niches où qui ont leur logiciel. Mais moi, ce que je mets en avant, c'est le sur-mesure. Et donc, je ressens pas ça comme une concurrence. Je pense même qu'il manque des développeurs. Il n'y a pas suffisamment de développeurs pour combler tous les projets, vu que le numérique est en plein essor. Je crois que chacun peut faire son chemin dans ses domaines spécifiques, en fait.
Ce qui compte, c'est que le client sache bien ce qu'il veut.
Pas forcément, parce que l'objectif aussi, c'est de conseiller le client. Moi, j'essaye au maximum de pas parler technologie, parce que il y a beaucoup de projets où les entreprises, enfin beaucoup, c'est peut-être bon, mais cas par cas, mais où des fois je récupère certains clients parce qu'en fait ils ont eu des choses imbuvables de la part d'autres entreprises, en fait. Et quand on induit, on ne sait pas lire ce que ça veut dire dedans, parce que c'est que technique pour un projet qui, au final, l'objectif, c'est que ça marche et que ce soit simple d'utilisation. C'est compliqué.
Plus justement c'est simple d'utilisation, plus ça risque de coûter cher.
Ah non, pas du tout. Non. C'est plus on fait de la conception au démarrage en dessinant sur des feuilles, ce que vous voulez voir sur l'écran. Des fois, il suffit que d'une journée ou deux. Et là, vous avez déjà un projet qui démarre bien, parce que vous avez déjà une idée de ce que ça peut donner, même s'il n'y a pas les couleurs, le graphisme. C'est plus ça, en fait.
Et les choses vont très vite aujourd'hui. Il faut toujours se dire, je laisse une opportunité d'ouverture pour upgrader, améliorer le jour où ce sera possible.
Dans quel cas?
Quand vous développez quelque chose, un logiciel ou une application, ouais, vous dites toujours, voilà, je laisse des portes ouvertes au cas où demain on pourrait faire ça.
Moi, en fait, tous mes logiciels sont évolutifs, comme c'est du sur-mesure, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça coûte pas plus cher, en fait. Quand vous voyez certains logiciels existants, vous payez des licences de fou. Alors là, vous pouvez, pour des prix, c'est peut-être un petit peu plus le sur-mesure, mais c'est pas non plus des grosses différences. Mais tous mes logiciels sont évolutifs, donc moi, dès le départ, dans ma tête, c'est vous faites ça, mais vous voulez évoluer, ça évoluera, en fait. J'ai des clients depuis 10 ans où on a commencé sur des petites choses, comme les montres commandes d'achat, qui ont évolué vers des outils beaucoup plus complets, quoi.
Votre travail comprend également une côté maintenance ou débugage de temps en temps, parce que
Dans la conception, oui, il y a le débugage avant la mise en production, et après, selon les forfaits, si c'est des bugs qu'on n'a pas vus, c'est pris en charge ou pas. Dans ces cas-là, on propose un devis, après c'est pas forcément accepté, mais déjà la phase de débugage pendant la création élimine beaucoup de problèmes, en fait. Et après, oui, on met à jour, il faut savoir, parce que peu d'entreprises, peut-être parce qu'elles sont pas techniques dans le développement numérique, le savent, mais en général, quand vous avez un logiciel, il marche sous une certaine technologie, et régulièrement, il faut la faire évoluer pour combler des failles de sécurité, pour garantir justement la sécurité, éviter d'autres bugs, et évoluer. Donc on est quand même dans une logique de se dire, après, votre logiciel, chaque année, on a une petite maintenance, ou plus grande, mais c'est jamais des gros trucs, sauf si on est très complexe, pour que ça continue à bien évoluer, en fait.
Enfin, dernière question, aujourd'hui, quel que soit le champ d'activité de quelqu'un qui se lance, la communication et notamment l'existence sur Internet, c'est devenu quelque chose de primordial d'imaginer tout de suite?
Oui, je pense, justement, quand on dit être présent sur les moteurs de recherche, avoir sa fiche entreprise, avoir son site Internet, même si c'est plus forcément un requis parce qu'on a des pages Facebook ou autre, c'est important de juste vous trouver, en fait. C'est-à-dire qu'on doit être capable de taper votre activité ou votre nom et vous trouver, en fait. Si on ne fait pas ça, déjà, ça va être compliqué de se dire qu'est-ce que c'est cette entreprise, en fait. C'est important d'être présent sur Internet, ça, c'est sûr.
Donc vous, on vous trouve à quel nom?
Kanga, K-A-N-G-A, c'est kanga.fr. Mais sinon, Jean-Sébastien Gallo, vous trouverez aussi. Donc c'est à Villars-les-Canicourt. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui s'achève la puce à l'oreille consacrée au déploiement de la fibre sur le territoire aux artistes Marquion. Merci de votre fidélité et à bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.